vue d'ensemble de l'actualité.
Notre gouvernement poursuit des discussions avec les provinces pour faire en sorte que lorsqu'on va commencer la reprise, chaque personne ait 10 jours de congé de maladie payés par année. On a eu de très bonnes discussions encore hier soir. C'est sûr qu'il y a une variété de perspectives. Les gens sont préoccupés qu'on n'ajoute pas plus de coûts aux entreprises pendant cette période de difficultés et d'incertitudes. Mais j'ai rassuré que le gouvernement fédéral allait prendre la grande partie de cet appui aux gens qui ont besoin de congés de maladie.
Trainville PM.
Alors, vous comprenez le principe, là. Hein? Je défends pas la mesure, je vous dis l'intention derrière la mesure. C'est, dans le fond, de vous donner 10 congés payés pour que, si jamais vous vous sentez malade, vous ne vous sentiez pas obligé de retourner travailler puis de prendre le risque de contaminer les autres collègues. Donc, Justin Trudeau dit, moi, j'aimerais ça vous offrir 10 congés payés. Comme ça, vous resterez à la maison, puis vous serez payé, puis vous risquerez pas d'infecter le reste de l'espace de travail, le reste de l'entreprise. Bon, OK. Sauf que là, comment ça va fonctionner? Puis surtout, qui va payer? Et là, j'entre dans la discussion. Celui qui surveille les finances, qui est une voix indépendante, surveille les finances publiques à Ottawa, il s'appelle Yves Giroux. Il est directeur parlementaire du budget. Donc, il se rapporte au Parlement, pas au gouvernement. Yves Giroux, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
M. Giroux, cette semaine, vous avez comparu devant un comité du Sénat et vous avez dit essentiellement, écoutez, le rythme des dépenses actuelles n'est pas soutenable, en tout cas, n'est pas soutenable sur plusieurs années. À un moment donné, il va falloir mettre une limite. Sans quoi, et là, je vous cite, sans quoi on se dirige vers des niveaux d'imposition jamais vus depuis des générations. Quand vous parlez de niveau d'imposition, vous parlez de hausse d'impôts, là, hein?
Oui, puis ça, c'était en réponse à une question d'un sénateur ou d'une sénatrice qui m'avait demandé combien de temps est-ce qu'on peut soutenir ce rythme de dépenses-là et qu'est-ce qu'on devra faire si on le soutient pendant plusieurs années. Donc, on n'est pas là, on ne parle pas de maintenir ce rythme de dépenses-là pendant plusieurs années, mais si jamais c'était le cas, ce qui est très peu probable, ça voudrait évidemment dire des hausses d'impôts.
J'ai soumis votre hypothèse. Hier soir, j'étais en discussion avec quelqu'un qui s'y connaît puis qui est au sein, on va dire, au sein de la machine gouvernementale à Ottawa. OK, j'ai envoyé l'article du Devoir. J'ai dit, regarde ce que Giroux raconte. Qu'est-ce que tu en penses? Et il m'est revenu puis il m'a dit, je suis pas d'accord avec M. Giroux parce qu'il ne prend pas en compte le fait que la plupart des programmes qu'on annonce comme gouvernement ne sont pas récurrents, premièrement. Et deuxièmement, il ne prend pas suffisamment en compte le fait que les taux d'intérêt sont très bas. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ben, je dirais que quand j'ai répondu à cette question-là, c'était une question hypothétique qui demandait mon avis sur qu'est-ce qui arriverait si on tenait ce rythme de dépenses-là pendant plusieurs années. C'est pas ce qu'on prévoit, c'est pas ce qu'on espère non plus. Le gouvernement était assez clair qui dit depuis le début de la crise que les mesures sont temporaires. J'espère qu'elles vont être temporaires et si ces mesures-là sont temporaires, c'est un niveau de dépenses qu'on peut se permettre, puis on peut revenir après ça à un déficit qui va être un peu plus raisonnable ou même l'équilibre budgétaire. Mais on tient compte du fait que les taux d'intérêt sont très bas. Même avec la dette qui va s'accroître considérablement cette année, les frais d'intérêt sur la dette bougent presque pas à cause justement que les taux d'intérêt sont très, très bas. Donc, on en tient compte, mais la réponse à la question, quand on me demande qu'est-ce qui arrive si on doit maintenir ce rythme de dépenses-là pendant très longtemps, ben il n'y a pas beaucoup de solutions. On accroît les impôts pour payer toutes ces dépenses additionnelles-là. Si on les reconduit, année après année après année, mais encore là, c'est pas ce que le gouvernement a dit qu'il ferait.
Mais mettons, là, on jase, OK? Mettons qu'on aurait une deuxième vague et que le gouvernement Trudeau est obligé d'annoncer à l'automne à nouveau une prestation d'urgence, mettons 2 000 $ par mois. Il est obligé, tu sais, on est obligé de retourner en confinement parce qu'il y a une deuxième vague. Donc, le 2 000 par mois, la subvention salariale, etc., etc. Là, on le sait que jusqu'à maintenant, là, les mesures ont coûté autour de 150 milliards. Hein? 150 milliards, en fait, plus que 150 milliards.
Oui, on est à peu près à ça, à peu près 150 milliards, mais rendu à ces montants-là, 1 milliard ou 2 ne fait pas une grosse différence. Malheureusement, là, ça me fait presque mal au cœur de le dire.
Mais mettons qu'on a une deuxième vague et qu'on est obligé d'engager un autre 150 milliards à l'automne. Est-ce qu'on a les moyens de payer un autre 150 milliards à l'automne, Yves Giroux?
On a les moyens de le payer encore une fois, mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a aussi les moyens de ne pas le payer? Parce qu'il y a aussi un coût à ne rien faire. Il y a des gens qui disent on aurait dû rien faire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent, mais la question à se poser, c'est si le gouvernement, les gouvernements, pas juste le fédéral, mais les provinces aussi, avaient rien fait, le coût aurait été très, très élevé aussi. Un coût en détresse psychologique, en faillite, en détresse humaine. Donc, il y a aussi un coût à rien faire, puis c'est facile d'oublier ça. Dans l'hypothèse d'une deuxième vague, est-ce qu'on aurait besoin d'injecter le même montant d'argent dans l'économie? Je suis pas certain. Je suis pas certain qu'on aurait besoin d'un montant aussi important parce qu'on va avoir appris de la première vague. Puis si jamais il y a une deuxième vague ou si elle est aussi importante que la première, c'est pas certain que le gouvernement va avoir besoin d'injecter le même montant dans l'économie. Mais la question, est-ce qu'on a les moyens de se le permettre? On a les moyens de se le permettre. On a les moyens de l'emprunter. Mais il va falloir qu'on soit très discipliné après la crise pour s'assurer qu'on n'a plus de déficit si jamais on avait une deuxième vague comme celle-là.
Mais ne plus avoir de déficit, Yves Giroux, déjà, avant la crise, le gouvernement n'était même pas capable de rétablir l'équilibre. Il n'y avait même pas d'horizon pour retourner à l'équilibre. Fait que là, on va avoir emprunté des centaines de milliards. C'est pas une exagération, là. Mettons qu'on a une deuxième vague, on peut parler là, peut-être entre 200 et 300 milliards d'emprunts. En fait, c'est plus que ça, parce que vous prédisez un déficit d'environ 260 milliards pour l'année en cours. Hein? Je me trompe pas, là. Vous êtes rendu là à 260, là, hein?
Oui, on est dans ces environs-là, dans un scénario où les mesures de confinement restent en place, mais sont relâchées graduellement tout au cours de 2020, ce qu'on est en train de vivre, et un scénario aussi où le prix du pétrole reste relativement bas, ce que aussi on est en train de vivre. Alors, donc, dans un scénario comme ça, c'est à peu près 260 milliards, c'est plausible.
OK. Puis comment vous expliquez les mesures, vous l'avez dit, les mesures annoncées jusqu'à maintenant sont autour de, mettons 160 milliards, mais vous prédisez un déficit de 260 milliards. Le 100 milliards de plus, il arrive d'où, là?
Bien, il arrive du fait que le gouvernement avait déjà prévu à encourir un déficit cette année, même en l'absence de pandémie. Puis l'autre, la somme qui manque, ça vient de la baisse des revenus, étant donné que l'économie tourne bien au ralenti, puis certains secteurs sont encore fermés, bien, les rentrées fiscales, les impôts et les taxes que le gouvernement collecte sont beaucoup plus basses que ce qui était prévu si on regarde juste en février. Donc, une baisse importante des revenus du gouvernement fédéral, c'est ce qui fait qu'on arrive à 260 milliards.
Bon, ça, c'est 260 sans calculer les éventuelles dépenses qui viendraient avec une deuxième vague. On jase. OK, on est à 260 pour le moment. Mettons qu'on a une deuxième vague, on est obligé d'engager un autre 100 milliards de dépenses. Donc, je suis conservateur, là. Je dis pas 150, 160, mais je dis 100. Alors, on se retrouve, mettons, avec un déficit de pas loin de 400 milliards à la fin de l'année. Ça s'ajoute à notre dette. C'est bien beau rajouter de la dette tant et aussi longtemps que les taux d'intérêt sont bas, Yves Giroux. Mais je vais te dire une affaire, on est bien mieux de... Les taux d'intérêt sont bien mieux de pas augmenter parce que là, on pourrait être vraiment dans le trouble.
Exactement, parce que là, les frais d'intérêt sur cette dette-là sont pas très élevés, étant donné que les taux d'intérêt sont à un plancher, mais il n'y a rien qui dit qu'ils vont rester au plancher encore pendant bien des années. Donc, quand les taux d'intérêt vont se remettre à augmenter, c'est là que de payer les intérêts sur cette dette-là va commencer à coûter cher. Puis c'est pour ça que ce que je dis au gouvernement depuis quelques semaines, que je demande au gouvernement, en fait, c'est de déposer une mise à jour économique et financière pour qu'ils indiquent aux Canadiens dans quoi, vers quoi on se dirige, c'est quoi les intentions du gouvernement pour la suite des choses. Il était supposé d'avoir un budget le 30 mars. Ça a été annulé pour des raisons évidentes. Mais depuis ce temps-là, le premier ministre fait beaucoup d'annonces sur le pas de sa porte, juste au bas de ses escaliers. Mais on n'a pas de stratégie claire sur la vision du gouvernement pour la suite des choses. Par exemple, est-ce qu'ils veulent instaurer des mesures de relance économique? Puis si oui, de quelle ampleur? Il n'y a pas de plan. On a des annonces à la petite semaine, mais on n'a pas de plan précis de la part du gouvernement.
De la même manière qu'on n'a aucune idée, pour le moment, de comment on pourrait éventuellement retourner à l'équilibre budgétaire. On est loin, loin, loin de ça, là.
On est très, très loin de ça, et surtout avec des programmes qui sont comme ça, qui qui sont aussi dispendieux. Cela étant dit, le gouvernement nous a promis que c'était des programmes temporaires. Si c'est des programmes temporaires, une fois qu'ils vont être expirés, on va retourner au programme d'avant la crise. Puis une fois que l'économie va recommencer à retrouver son air d'aller, les revenus fiscaux, les revenus budgétaires du gouvernement vont augmenter. Donc là, il y a de l'espoir pour avoir des déficits beaucoup plus faibles que ce qu'on a présentement. Peut-être même un équilibre budgétaire si le gouvernement fait des choix judicieux en matière de dépenses. Mais ça, ça va dépendre beaucoup, beaucoup des choix politiques que le gouvernement va faire.
Oui. Puis rappelons que Justin Trudeau avait promis à l'élection de 2015 de ramener son gouvernement à l'équilibre. Au début, un petit déficit, puis après ça, l'équilibre. Puis finalement, tout ça, il a comme mis ça de côté, puis on s'est retrouvé en déficit. Et puis, avant la crise, il n'y avait aucun horizon, aucune échéance pour retourner à l'équilibre. On verra bien, en tout cas, on verra bien, Yves Giroux. Mais chose certaine, on est content que vous soyez là parce que vous apportez, dis-je, un regard indépendant sur l'état des finances publiques. Vous êtes comme un chien de garde. Et donc, votre rôle est très important, Yves Giroux, directeur parlementaire du budget à Ottawa. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.